Livre 6, La Grande Tentation, chapitre 1er, Duo de Bienheureux. Ce salon bien meublé, avec un grand piano ouvert, et l'agréable vue d'un jardin qui descend jusqu'à un port couvert pour les bateaux au bord de la flosse, appartient à M. Dean. La gentille petite dame en deuil, dont les boucles de cheveux blonds tombent sur une broderie en couleur à laquelle ses doigts sont occupés, est naturellement Lucy Dean. Le beau jeune homme assis près d'elle, qui se penche pour agacer avec les ciseaux le museau excessivement raccourci du King Charles couché aux pieds de la jeune dame, n'est autre que M. Stephen Guest, dont la bague en diamant, le parfum de rose et l'air de nonchalant loisir au milieu du jour, il est midi, indiquent les brillants résultats dus au plus grand moulin à huile et à l'entrepôt le plus vaste de St. Ogg's. Il y a une apparence de niaiserie dans cette occupation des ciseaux, mais votre discernement reconnaît tout de suite qu'il y a là un but qui la rend très digne de ce jeune homme au front large et à la tournure élégante. Car vous voyez que Lucy a besoin des ciseaux, et se trouve obligée, quelque contrariété qu'elle en éprouve, de secouer ses boucles en arrière, de lever ses doux yeux bruns, de sourire gaiement à un visage qui est presque abaissé au niveau de ses genoux, et, en tendant sa petite main rose comme une coquille, de dire « Mes ciseaux, s'il vous plaît, si vous pouvez renoncer au grand plaisir de persécuter ma pauvre Minnie. » Ces ridicules ciseaux ont glissé trop loin par-dessus les articulations, à ce qu'il semble, et Hercule présente ses doigts étroitement enchaînés. « Maudits ciseaux, l'ovale est tourné du mauvais côté. S'il vous plaît, ôtez-les-moi. »«
Retirez-les avec l'autre main, » dit Miss Lucy malicieusement.
« Oh, mais c'est ma main gauche. Je ne suis pas gaucher. » Lucy rit, et les ciseaux sont enlevés avec de délicats attouchements de petits doigts, qui, naturellement, disposent M. Stephen à une répétition da capo. En conséquence, il attend que le petit instrument soit posé, afin de pouvoir de nouveau s'en emparer.
« Non, non, » dit Lucy, les gardant à la main, « vous ne les aurez plus. Vous les avez déjà forcés.
Maintenant, ne faites plus gronder Minnie. « Asseyez-vous et comportez-vous convenablement. Alors je vous annoncerai quelques nouvelles. »«
Quoi donc ?» dit Stephen, se renversant en arrière et laissant pendre son bras sur le dos de la chaise. Il aurait pu poser ainsi pour son portrait, qui aurait représenté un remarquable jeune homme de 25 ans, avec un front large et haut, des cheveux courts brun foncé et relevés, et un regard à la fois ardent et satirique, partant de dessous des sourcils droits et bien tracés.
« Est-ce une nouvelle bien importante ?»«
Oui, excessivement. Devinez. Vous allez changer le régime de Minnie et lui donner 3 rataflas trempés de crème dans une cuillère à dessert chaque jour. »
« Complètement faux. »
« Eh bien alors, le révérend docteur Ken a prêché contre le bougran, et vous autres dames lui avez toutes envoyé un billet circulaire disant « C'est une doctrine difficile. Qui pourrait la supporter ?»
« Quelle honte !» dit Lucy, en disposant sa petite bouche au sérieux.
« C'est assez maladroit de votre part de ne pas deviner ma nouvelle, car c'est à l'égard d'une chose dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps.
Vous m'avez parlé de beaucoup de choses dernièrement. Est-ce que votre tyrannie féminine exige que, lorsque vous dites que la chose que vous avez en vue fait partie d'un grand nombre d'autres, je doive immédiatement la reconnaître à ce signalement ?»«
Oui, je sais que vous pensez que je suis une niaise. »
« Je pense que vous êtes parfaitement charmante. »«
Et ma niaiserie fait partie de mes charmes. »«
Je n'ai pas dit cela. »«
Mais je sais que vous aimez que les femmes soient plutôt insipides. »« Philip Wakem vous a trahi. »« Il l'a dit un jour que vous n'étiez pas là. »«
Oh, je sais que Philip est terrible sur ce point. »« Il en fait un sujet tout à fait personnel. »« Je pense qu'il est malade d'amour pour quelque dame inconnue, quelque noble Béatrice qu'il a rencontrée à l'étranger. »
« Mais à propos, » dit Lucy, en cessant de travailler,
« il me vient justement à l'esprit que je n'ai jamais découvert si ma cousine Maggie aurait, ainsi que son frère, quelque objection à voir Philip. »
Tom n'entre pas dans un salon où il sait que se trouve Philip.
Peut-être Maggie en fera-t-elle autant. Et alors nous ne pourrons plus chanter nos morceaux d'ensemble.
Le pourrons-nous ?
« Comment ? Est-ce que votre cousine vient demeurer avec nous ? » dit Stephen, d'un air légèrement ennuyé.
« Oui, c'était ma nouvelle, que vous avez oubliée. »
Elle quitte sa place,
où elle est restée à peu près 2 ans, la pauvre créature, tout le temps depuis la mort de son père. Et elle restera avec moi 1 mois ou 2, plusieurs mois, j'espère. Et suis-je obligé d'être satisfait de cette nouvelle ?
Oh non, pas du tout, dit Lucy avec un petit air piqué. Cela me fait plaisir, mais ce n'est pas naturellement une raison pour que cela vous en fasse aussi. Il n'y a aucune jeune personne au monde que j'aime autant que ma cousine Maggie.
Et vous serez inséparables, je suppose, quand elle sera venue.
Il n'y aura plus aucune possibilité de tête-à-tête avec vous, à moins que vous ne puissiez lui trouver un admirateur qui fasse la paire avec elle de temps en temps.
Quel est son motif d'éloignement contre Philippe ?
Il aurait pu être une ressource.
C'est une querelle de famille avec le père de Philippe.
Il y a eu des circonstances très pénibles, je crois.
Je ne les ai jamais bien comprises, ni toutes connues.
Mon oncle Taleva a eu du malheur et a perdu sa fortune, et je crois qu'il considérait M. Wakeham comme en étant en quelque sorte la cause.
M. Wakeham acheta le moulin de Dorlcote, l'ancienne propriété de mon oncle, où il avait toujours vécu.
Vous devez vous rappeler mon oncle Taleva, n'est-ce pas ?
Non, dit Stephen, avec une indifférence un peu pointilleuse.
J'ai toujours connu le nom, et je pense que je devais le connaître lui-même de vue, sans savoir qui il était.
Je connais la moitié des noms et des visages du voisinage de cette même manière vague et indifférente. C'était un homme d'un caractère très vif. Je me rappelle, quand j'étais petite fille et que j'allais voir mes cousins, qu'il m'effrayait souvent en parlant comme s'il était en colère. Papa m'a dit qu'il y avait eu une terrible querelle, le jour même avant la mort de mon oncle, entre lui et M. Wakeham, mais que l'on avait étouffé la chose.
C'est pendant que vous étiez à Londres.
Papa prétend que mon oncle se trompait tout à fait sur plusieurs choses. Son esprit s'était aigri. Mais Tom et Maggie doivent naturellement trouver très pénible qu'on leur en parle. Ils ont eu tant et tant d'afflictions. Maggie était en pension avec moi, il y a 6 ans, quand on vint la retirer à cause des malheurs de son père. Et je crois qu'elle n'a pas eu le moindre plaisir depuis lors. Elle a rempli une place bien triste dans un pensionnat, depuis la mort de mon oncle, parce qu'elle est déterminée à être indépendante et à ne pas demeurer avec tante Poulet. Je pouvais à peine alors demander qu'elle vînt vers moi, parce que ma chère maman était malade et que tout était si triste. Voilà pourquoi je désire qu'elle vienne à présent et qu'elle prenne de longues, longues vacances.
Très doux et très angélique de votre part, dit Stephen, en la regardant avec un sourire d'admiration, surtout si elle a les qualités de conversation de sa mère.
Pauvre bonne tante, vous êtes cruelle de la ridiculiser.
Elle a une grande valeur pour moi. Je sais qu'elle dirige supérieurement la maison, beaucoup mieux qu'aucune étrangère ne pourrait le faire, et elle m'a été d'un grand secours pendant la maladie de maman.
Oui, mais au point de vue de la société, on préfère qu'elle soit représentée par ses cerises à l'eau-de-vie et ses gâteaux à la crème.
Je pense avec un frisson que sa fille sera toujours là en personne sans avoir les agréables représentants de sa mère. Ce sera quelque fille grasse et blonde, avec des yeux ronds et bleus, qui nous regardera en silence d'un air étonné.
« Oh oui !» s'écria Lucie, riant malicieusement, et frappant des mains.
« C'est tout à fait ma cousine Maggie.
Il faut que vous l'ayez vue. »«
Non, en vérité. Seulement je devine ce que doit être la fille de Madame Taleva. Et alors, si elle bannit Philippe, notre seule ressource comme ténor, ce sera un désagrément de plus. » Mais j'espère qu'il n'en sera pas ainsi. Je crois que je vous prierai d'aller voir Philippe et de lui dire que Maggie arrive demain. Il connaît parfaitement les sentiments de Tom et s'en tient à l'écart. Aussi, il comprendra que je vous ai prié de l'avertir de ne pas revenir avant que je lui écrive pour l'y engager. Je crois que vous feriez mieux d'écrire un joli billet que je lui remettrai. Philippe est si sensible, vous savez, que la moindre chose pourrait l'effrayer et l'empêcher tout à fait de revenir.
Et nous avons eu assez de peine à la voir.
Je ne puis jamais l'engager à venir au parc. Il n'aime pas mes sœurs, je crois. Ce n'est que votre toucher féerique qui peut coucher ses plumes hérissées.
Stephen s'empara de la petite main qui se dirigeait vers la table et la toucha légèrement de ses lèvres. La petite Lucy se sentit très fière et très heureuse. Elle et Stephen en étaient à ce point de liaison d'où surgissent les moments les plus heureux de la jeunesse. L'époque la plus fraîche de la passion naissante, quand chacun est sûr de l'amour de l'autre, mais qu'aucune déclaration positive n'a encore été faite. Lorsque le tout n'est qu'une espérance mutuelle, faisant du mot le plus ordinaire, du plus petit geste, un enivrement délicat et délicieux, comme celui d'un parfum de jasmin flottant dans l'air. Un engagement décidé enlève cette fine délicatesse de perception. C'est du jasmin cueilli et offert en gros bouquet. Mais il est vraiment curieux que vous ayez si exactement deviné l'air et les manières de Maggie, dit la rusée Lucy, en s'avançant pour prendre son écritoire. Parce qu'elle aurait pu être comme son frère, vous savez. Et Tom n'a pas les yeux ronds, et il est aussi loin que possible de regarder les gens d'un air étonné. Oh, je suppose qu'il ressemble à son père. Il a l'air aussi fier que Lucifer. Il ne doit pas être d'une compagnie amusante, d'après ce que je puis voir. J'aime Tom. Il m'a donné Minnie lorsque j'ai perdu Lolo. Et papa l'aime beaucoup. Il dit que Tom a d'excellents principes. C'est par son moyen que son père a pu payer toutes ses dettes avant de mourir. Ah oui, j'en ai entendu parler. J'ai entendu votre père et le mien causer de cela il y a quelque temps, après dîner, dans une de leurs interminables discussions d'affaires. Ils pensent à faire quelque chose pour le jeune Taleva. Il leur a évité une perte considérable en revenant à franc étrier, comme Turpin, leur apporter la nouvelle de la cessation de paiement d'une banque ou de quelque chose d'analogue. Mais je sommeillais à moitié pendant ce temps. Stephen se leva de sa chaise et se dirigea vers le piano en murmurant d'une voix de tête « Gracieuse compagne » tout en feuilletant le volume de la création qui était sur le lutrin. « Venez chanter ceci, » dit-il, quand il vit Lucy se lever. « Quoi, gracieuse compagne ? Je ne crois pas que ce soit pour votre voix. Qu'importe, cela s'accorde parfaitement avec mes sentiments, ce qui, comme le prétend Philippe, est le grand élément d'un bon chant. Je remarque que les hommes qui ont peu de voix sont généralement de cette opinion. » Philippe a éclaté en invective l'autre jour contre la création, dit Lucy en se mettant au piano. Il dit qu'il y a une sorte de complaisance sacrée et une intention de flatterie, comme si cela était écrit pour fêter le jour de la naissance de quelque grand-duc allemand. Ah, Bast, c'est un Adam déchu, avec le caractère aigri. Nous sommes Adam et Ève, avant la chute, en paradis. Voyons d'abord le récitatif à cause de la morale. Vous allez chanter tous les devoirs de la femme. Et mon obéissance fait ma gloire et mon bonheur. Oh non, je ne respecterai pas un Adam qui traîne la mesure comme vous le faites, dit Lucy en commençant à accompagner le duo. Certainement, la seule manière de se courtiser sans être troublé par les doutes et les craintes est celle où les amants peuvent chanter ensemble. Le sentiment de mutuel accord ressortant de deux notes basses qui, à l'instant précis, répondent à l'appel des notes argentées du soprano, découlant de l'accord parfait des tierces et des quintes descendantes, des charmantes réponses prévues d'une fugue, empêchent probablement tout désir d'aveu immédiat sous une forme moins passionnée. Le contralto ne s'inquiétera pas de catéchiser la basse. Le ténor ne craindra aucune observation embarrassante dans des soirées passées avec un aimable soprano. Dans les provinces aussi, où la musique était si rare à cette époque reculée, comment les personnes musiciennes pouvaient-elles éviter de devenir amoureuses l'une de l'autre? Même des principes politiques ont été en danger de relâchement sous de telles influences. Et un violon fidèle au bourg pourri doit avoir été tenté de fraterniser d'une manière démoralisante avec un violoncelle réformateur. Dans le cas particulier qui nous occupe, le petit soprano à voix de linotte et la forte basse chantant « Avec toi le plaisir est constamment nouveau, la vie à tes côtés me rend heureux sans cesse », croyait d'autant plus à ce qu'il chantait que c'était eux qui le chantaient. « À présent, le grand air de Raphaël, » dit Lucy, quand ils eurent terminé le duo. « Vous imitez les lourds animaux à ravir. »« Cela ressemble à un compliment, » dit Stephen en regardant sa montre. Par Jupin, il est bientôt 1h30. « Bien, j'ai justement le temps de le chanter. » Stephen exécuta avec une aisance admirable les notes profondes qui représentent les pas des lourds animaux, mais quand un chanteur a un auditoire composé de 2 individus, les opinions peuvent être divisées. La maîtresse de Minnie était enchantée, mais Minnie, qui s'était, dès que le chant avait commencé, retranchée en tremblant dans son panier, trouva ce tonnerre si peu de son goût qu'elle sauta dehors et décampa sous la chiffonnière la plus éloignée, comme étant l'endroit le plus favorable où un petit chien put éviter l'éclat de la foudre. « Adieu, délicieuse compagne, » dit Stephen, en croisant son habit, quand il eut fini de chanter, et en souriant du haut de sa grande taille, avec l'air d'un amant protecteur, à la petite dame assise sur le tabouret du piano. « Mon bonheur n'est pas incessant, car il me faut galoper à la maison. J'ai promis d'y être pour le déjeuner. Vous ne pourrez donc pas faire cette visite à Philippe. C'est égal, je lui ai tout dit dans mon billet. » « Vous serez occupé de votre cousine demain, je suppose. »« Oui, nous aurons une petite réunion de famille. Mon cousin Tom dînera avec nous, et la pauvre tante aura ses deux enfants ensemble pour la première fois depuis longtemps. Ce sera très gentil, j'y pense beaucoup. »« Mais je puis venir le jour suivant ?»« Oh oui, venez que je vous présente à ma cousine Maggie, quoique vous puissiez à peine dire que vous ne l'ayez pas vue. Vous l'avez si bien décrite. »« Adieu donc. » Et il y eut un léger serrement de main, et cette rencontre momentanée des regards, qui peuvent quelquefois laisser sur le visage d'une petite dame cette délicate rougeur et ce sourire qui ne la quitte pas, même lorsque la porte est refermée, et la dispose à se promener de long en large dans la chambre, plutôt que de se rasseoir tranquillement à sa broderie ou à quelque autre occupation raisonnable ou utile. Au moins il en fut ainsi pour Lucy. Et j'espère que vous n'envisagez pas le regard qu'elle lança à la glace de la cheminée, quand sa promenade l'en rapprocha, comme un indice de vanité dominant d'autres impulsions plus tendres. Le désir de s'assurer qu'on n'a pas paru un véritable épouvantail, pendant quelques heures de conversation, peut être considéré comme un mouvement de louable bienveillance à l'égard des autres. Et Lucy avait une telle dose de cette bienveillance dans le caractère, que je suis disposé à croire que ce petit mouvement de personnalité en était imprégné. Tandis qu'il y a des gens qui ne nous sont pas inconnus, dont les petits actes de bienveillance ont un parfum prononcé d'égoïsme. Même à présent qu'elle se promène, et que son cœur de jeune fille est ému à l'idée d'être aimée par une personne de haute importance dans son petit monde, vous pouvez voir briller dans ses yeux une affectueuse aménité toute présente, dans laquelle se perdent complètement les innocents éclairs de sa vanité personnelle. Et si elle est heureuse en pensant à celui qui l'aime, c'est parce que cette pensée se mêle facilement à toutes les douces affections et aux bonnes œuvres dont elle remplit ses jours paisibles. Même maintenant que son esprit s'occupe de Stephen, elle est sous l'influence de deux courants d'idées et de sentiments qui agissent à la fois et la ramènent aux préparatifs qu'elle n'a qu'à moitié achevés dans la chambre de Maggie. Sa cousine Maggie doit être traitée aussi bien que la plus grande dame en visite, mieux encore, car elle aura les plus belles gravures et les meilleurs dessins de Lucy dans sa chambre, et le plus beau bouquet de fleurs du printemps sur sa table. Maggie jouira de cela. Elle aimait tant les jolies choses. Et de plus, la pauvre tante Taleva, dont personne ne s'occupait, elle aura la surprise de recevoir un chapeau de qualité supérieure, et l'on boira à sa santé d'une manière flatteuse. Le père de Lucy doit ce soir comploter cela avec Tom. Certainement, Lucy n'avait pas de temps à donner à de longues rêveries sur ses propres amours. Dans cette pensée, elle marcha vers la porte, puis s'arrêta. « Qu'est-ce donc, Minnie ? » dit-elle, se baissant en réponse à quelques plaintes de ce petit quadrupède, dont elle souleva la tête dorée contre sa joue rose. « Tu as cru que j'allais m'en aller sans toi ? Allons, viens. Allons voir Sinbad. » Sinbad était le cheval brun de Lucy, qui lui donnait toujours à manger de sa propre main quand il était en liberté dans le clos. Elle aimait à donner de la nourriture à des créatures dépendantes et connaissait les goûts particuliers de chaque animal de la maison. Elle était heureuse du petit claquement de bec de ses canaris, occupés de graines nouvelles, et du plaisir qu'éprouvent à grignoter certains animaux, que dans la crainte que l'appellation ne paraisse triviale, j'appellerai ici les rongeurs les plus familiers. Stephen Guest n'avait-il pas raison de penser que cette délicate jeune fille de 18 ans était tout à fait l'espèce de femme qu'un homme ne se repentirait jamais d'avoir épousée? Une jeune fille aimante et attentive pour les autres femmes, ne leur donnant point des baisers de Judas, avec les yeux ouverts sur leurs imperfections bienvenues, mais ayant pour elles des soins actifs, devinant leurs peines et leurs chagrins à moitié cachés, et sachant savourer longtemps d'avance de petits plaisirs préparés pour elle. Peut-être que sa plus grande admiration ne tombait pas précisément sur cette qualité si rare qui se trouvait en elle. Peut-être approuvait-il son propre choix en raison de ce qu'elle ne lui paraissait point comme une rareté remarquable. Un homme aime que sa femme soit jolie. Eh bien, Lucie était jolie, mais pas au point de rendre fou. Un homme aime que sa femme ait des talents, qu'elle soit douce, affectionnée et point sotte. Lucie avait toutes ces qualités. Stephen n'était point surpris de s'en trouver amoureux et avait la conviction de juger sainement en la préférant à Miss Leyburn, la fille du membre du comté, quoique Lucy ne fût que la fille de l'associé subordonné de son père à lui. Outre cela, il avait eu à braver et à vaincre une légère opposition de désappointement chez son père et chez ses sœurs, circonstance qui donne à un jeune homme le sentiment intime et toujours agréable de sa propre importance. Stephen était persuadé qu'il avait assez de bon sens et d'indépendance pour choisir la femme qui devait probablement le rendre heureux, sans se laisser détourner par aucune considération indirecte. Il avait l'intention de choisir Lucy. C'était un petit bijou, et justement l'espèce de femme qu'il avait toujours le plus admirée.